A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
Galère, galère, bonjour, émission Livres et Amis du mercredi 30 septembre. D'abord un petit mot pour Odile, notre chère animatrice habituelle. Voilà, elle est de retour à Marseille, mais encore pas très solide et elle espère reprendre bientôt l'antenne. Et aujourd'hui, elle nous laisse encore l'antenne, donc aujourd'hui c'est encore Dominique et Françoise pour un passionnant témoignage de la liberté de penser et de la résistance au pouvoir totalitaire. Celui de Ahmet Altan, qui nous vient de Turquie. Auparavant, un petit point d'actualité. D'abord, la marche des sans-papiers, partie de Marseille, samedi 19 septembre. Son arrivée est prévue à Paris le 17 octobre. Donc, de loin, on les suit et on les soutient. Actualité culturelle aussi, Manifesta qui se poursuit avec la nouvelle expo qui est ouverte au FRAC et qui, comme d'habitude, est gratuite le dimanche, profitez-en. Avec une exposition en plein air aussi au Parc de la Maison-Blanche, donc en plein air et gratuite, bien sûr. Au Parc de la Maison-Blanche, à partir d'aujourd'hui, mardi 30 septembre et pendant 10 jours. Et puis, pensez que les cinémas sont ouverts. C'est pas comme les bars et les restaurants. Les cinémas restent ouverts, appliquent des mesures barrières. Donc, allez au cinéma, allez au Gyptis, notre cher cinéma lié à la Friche, allez à l'Alhambra, allez à la Baleine et profitons-en pour retrouver sur les écrans tout ce qu'on trouve aussi dans les livres, le plaisir, l'évasion, etc. Alors, retour à notre livre de Ahmet Altan. Ça s'appelle « Je ne reverrai plus le monde ». Et l'explication de ce titre, « Je ne reverrai plus le monde », c'est que ce sont des textes écrits en prison. Des feuilles qui sont passées par Ahmet Altan à ses avocats presque au jour le jour. Et des feuilles donc qui... une à une vont être transmises à l'éditeur et finissent par être publiées. Donc les livres d'Ahmet Altan sont d'abord écrits en turc, bien sûr. Ils sont publiés essentiellement en Grande-Bretagne, donc traduits en anglais, publiés en Grande-Bretagne. Et pour trois d'entre eux aussi, traduits et publiés en français. Celui-ci, « Je ne reverrai plus le monde », il est publié en Grande-Bretagne en 2018, en France en 2019, chez Actes Sud, au prix de 18,50 €. Donc, Ahmet Altan, c'est un journaliste et écrivain, essayiste, romancier, turc, né en Turquie donc en 1950, et qui a publié un certain nombre d'essais et de romans. Il a surtout été, pendant, on pourrait dire, toute sa vie active, journaliste dans des journaux, des périodiques. Il a même été directeur de rédaction dans deux magazines turcs. Et comme il manifeste toujours sa liberté de pensée, de parole, d'écriture, évidemment, face au régime turc et en particulier face au régime de Erdogan, ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Il a subi depuis 1985 une vingtaine de procès et il a été incarcéré de nombreuses fois. Il est en ce moment en prison. Pour la Journée mondiale de la liberté de la presse en 2015, il déclarait « On représente 1% dans une profession où 99% des personnes nient la vérité. Comme, alors nous sommes, nous, comme une allumette qu'on gratte dans l'obscurité. Tout le monde nous voit. » Donc les journalistes qui écrivent des vérités que personne d'autre n'écrit attirent violemment l'attention et ils déclenchent colère et hostilité du pouvoir, mais il ne faut pas les oublier. Alors n'oublions pas Ahmet Altan, lisons ses livres et soyons attentifs à sa pensée. On va commencer par un extrait qui est le début du livre. Qui nous raconte, j'allais dire une de ses nombreuses arrestations, mais en fait qui nous raconte sa dernière arrestation.
Je me suis réveillée, on sonnait à la porte. J'ai jeté un œil au réveil électronique à côté de moi. 5h42, les chiffres clignotaient. La police, me suis-je dit. Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir je m'endormais imaginant qu'à l'aube on frapperait à ma porte. Je savais qu'ils viendraient. Ils sont venus. J'avais même préparé des habits spécialement pour mon arrestation et les jours qui suivraient. Un pantalon noir en lin, serré à la taille par un lacet intérieur, de façon à pouvoir me passer de ceinture. Des sockets noires s'arrêtant à la cheville. Des chaussures de sport souples et confortables. Un t-shirt en coton léger et une chemise de couleur foncée. J'ai enfilé ma tenue d'arrestation et je suis allée ouvrir la porte. J'ai d'abord regardé par le judas. Des policiers attendaient sur le palier, revêtus de gilets sur lesquels on lisait, écrit en grosses lettres au niveau de la poitrine, TEM, les membres de la brigade antiterroriste en tenue d'intervention. Ils étaient 6. J'ai ouvert la porte. Mandat de perquisition et d'arrestation, ont-ils dit en entrant. Ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. Ils se sont séparés pour fouiller l'appartement. Le jour se levait. Affleurant au-dessus des collines, les rayons du soleil se diffusaient en vagues violettes, mauves et lilas, dans un ciel qui paraissait une rose blanche. Un paisible matin de septembre s'éveillait, ignorant tout de ce qu'il se passait chez moi. Les policiers fouillaient toujours. J'ai fait du thé. « Vous voulez du thé ?» leur ai-je demandé. Ils n'en voulaient pas. Imitant la voix de mon père, j'ai ajouté. « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » 45 ans plus tôt, un matin encore, ils avaient fait irruption chez nous, pour mon père cette fois. Il leur avait demandé s'ils voulaient du café, et quand ils eurent refusé, il leur avait répondu en riant. « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » Ce que je vis n'a rien d'un déjà vu. C'est la répétition d'une même réalité. Comme ce pays ne se déplace que très lentement dans le cours de sa propre histoire, le temps n'y fait jamais marche arrière. Il se retourne pour s'apesantir sur lui-même. 45 ans plus tard, le temps se retournait sur un matin identique. 45 ans d'un seul matin, pendant lequel mon père était mort et où j'avais vieilli, mais dont l'aube et ses intrus demeuraient inchangés. Je me suis servi du thé. J'ai vidé dans un bol un paquet de muesli auquel j'ai ajouté du lait. Je me suis assis dans un fauteuil et sirotant mon thé et mangeant mon muesli, j'ai entrepris d'attendre que les policiers finissent de fouiller mon appartement. Tout était silencieux. « On y va », ont-ils dit. J'ai pris le sac où j'avais glissé d'avance quelques bouquins au milieu du linge de rechange. Nous sommes sortis de l'immeuble. Une voiture de police banalisée attendait devant la porte. Nous sommes montés dedans. Je me suis assis avec mon sac sur les genoux. Ils ont fermé la portière. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Dans la mythologie islamique, on dit qu'une fois les funérailles terminées, la tombe refermée, tandis que la communauté se disperse, le mort se lève pour rentrer chez lui. Et ce n'est qu'alors, à l'instant où il se cogne la tête contre le couvercle de son propre cercueil, qu'il comprend qu'il est mort. À l'instant où la portière s'est refermée, j'ai senti ma tête cogner contre le couvercle de mon cercueil. Je ne pouvais plus ouvrir cette portière. Je ne pouvais plus redescendre. Je ne pourrai plus rentrer chez moi. Je ne pourrai plus embrasser la femme que j'aime, ni étreindre mes enfants, ni retrouver mes amis, ni marcher dans la rue. Je n'aurai plus de bureau, ni de machine à écrire, ni de bibliothèque vers laquelle étendre la main pour prendre un livre. Je n'entendrai plus de concerto pour violon. Je ne partirai plus en voyage. Je ne ferai plus le tour des librairies. Je ne sortirai plus un seul plat du four. Je ne verrai plus la mer. Je ne pourrai plus contempler un arbre. Je ne respirerai plus le parfum des fleurs, de l'herbe, de la pluie, ni de la terre. Je n'irai plus au cinéma. Je ne mangerai plus d'œufs au plat ou saucisson à l'ail. Je ne boirai plus un verre d'alcool. Je ne commanderai plus de poisson au restaurant. Je ne verrai plus le soleil se lever. Je ne téléphonerai plus à personne. Personne ne me téléphonera plus. Je n'ouvrirai plus jamais une porte moi-même. Je ne me réveillerai plus jamais dans une chambre avec des rideaux. On changera jusqu'à mon nom. On effacera Ahmet Altan pour le remplacer par le nom inscrit sur mes papiers, Ahmet Usrev Altan. Quand ils me demanderont ton nom, je dirai Ahmet Usrev Altan. Et s'ils me demandent où j'habite, je donnerai un numéro de cellule. Désormais, on décidera pour moi de ce que je ferai, des endroits où j'irai, du lieu où je dormirai, de l'heure à laquelle je me réveillerai, du nom que je porterai. J'obéirai à des ordres. Arrête-toi, avance, entre, lève la tête, enlève tes chaussures, tais-toi. La voiture de police filait à toute vitesse. C'était le premier des 12 jours de vacances pour la fête de l'Aïd. La plupart des habitants de la ville étaient partis en congé, y compris le procureur qui avait signé mon ordre d'arrestation. Les rues étaient désertes. Le policier à côté de moi a allumé une cigarette. Il m'a tendu le paquet. J'ai secoué la tête et dit en souriant « Merci, je ne fume que quand je suis tendue. » Et tandis que je me trouvais dans cette voiture dont il m'était impossible d'ouvrir la portière, privé de tout pouvoir sur mon propre futur, contraint même à changer de nom, enfin ramené à l'état de misérable insecte piégé dans la toile d'une araignée venimeuse, la première phrase que j'avais prononcée devait s'évertuer à nier cet état de fait, à le tourner en dérision, à mettre entre la réalité et moi une distance infranchissable. Or, cette phrase surgit de je ne sais quel obscur recoin de ma conscience, elle m'était venue sans réfléchir, comme si dans la voiture de police qui le conduisait vers son cachot, quelqu'un en moi, mais que je n'appellerai pas moi, et qui pourtant était une part de moi-même puisque ces mots sortaient de ma bouche, avait emprunté ma voix pour dire qu'il ne fumait que quand il était tendu. Cette phrase a tout changé. Pour ma part, j'ignore toujours à quelle mystérieuse source j'ai puisé l'inspiration de cette phrase. Comment me sont venus ces mots qui ont littéralement changé ma façon d'appréhender ce qui m'arrivait alors et tout ce qui devait m'arriver ensuite. Ce que je sais, c'est que dans cette voiture de police qui filait à toute allure, il se trouvait en moi quelqu'un capable de répliquer qu'il ne fumait que quand il était tendu. Quelqu'un, imaginais-je, formé de 1000 voix, rires, lignes, phrases et douleurs. La réalité n'a pas su m'attraper au vol. C'est moi qui l'ai empoignée au col. La voiture de police continuait à filer à toute allure sur les avenues inondées de lumière. J'ai posé calmement le sac que je tenais sur mes genoux. Je me suis enfoncée dans le siège détendu. Moi, vu de l'extérieur, j'étais un vieil Ahmet Usrev Altan aux cheveux blancs, allongé par terre dans une cage sans air et sans lumière, fermée par des barreaux en fer. Mais cela, c'était la réalité de mes geôliers. La mienne était tout autre. Moi, j'étais un jeune officier qui mange tranquillement ses cerises, un pistolet braqué sur le cœur. J'étais Borges répondant « la vie » aux voleurs. J'étais César qui fait dresser des murs à Alésia. Parce que moi, il n'y a que quand je suis tendu que je fume.
Donc ce premier extrait, c'est l'arrestation. Et ensuite, le restant du livre, bien sûr, va nous dire l'emprisonnement, la vie en prison. Et tout à l'heure, dans l'extrait qu'on lira, les compagnons de la prison. Sur l'emprisonnement de Ahmet Altan, Amnesty International écrit « Ahmet Altan est en prison en dehors de tout cadre légal ». C'est la Cour pénale d'État qui a rejeté l'arrêt de la Cour de cassation qui avait demandé sa libération. Donc il est poursuivi, emprisonné, condamné sans la moindre preuve, uniquement en raison de ses opinions et de leur publication en tant que journaliste. Il s'agit pour l'État turc de punir sa détermination à ne pas se laisser réduire au silence. Après sa condamnation de 2016, il a finalement été libéré en novembre 2019, puis à nouveau réincarcéré quelques jours après. Et en fait, à ce moment-là, au moment où il parle, il est accusé d'avoir envoyé des messages subliminaux de soutien au terrorisme lors d'une émission télévisée. Amnesty International a dit « grotesque ». Donc dans le deuxième extrait, nous allons retrouver Ahmet Altan avec ses compagnons de prison.
Tous les militaires emprisonnés avec moi étaient des officiers de marine, tous d'anciens camarades de promotion à l'école militaire navale d'Istanbul. Le comique de l'affaire était que ces officiers n'avaient pas participé au coup d'État, mais qu'on les avait mis en prison à la place des putschistes une fois ces derniers arrêtés. Un ancien camarade les avait tous dénoncés. Une espèce de furie délatrice semblait s'être emparée de l'armée. Les officiers s'y dénonçaient les uns les autres sans la moindre pitié. Aussitôt après que l'ancien camarade les eut accusés, la police avait raflé en une seule fois tous les officiers de marine de la même promotion. Certains étaient haut gradés, membres de l'état-major. Des hommes cultivés, titulaires de doctorats dans plusieurs domaines, engagés dans des carrières brillantes. Ils étaient inquiets. Ils avaient peur, bien sûr, mais le fait de se retrouver entre copains de jeunesse leur donnait aussi l'occasion de blaguer, de se taquiner, de rire entre eux d'une cellule à l'autre, chacun accroché au barreau de la sienne, transformant notre couloir en une sorte de dortoir d'internat de lycée militaire. Il régnait une atmosphère étrange, mêlée de rire et d'angoisse, sous la pression de laquelle chacun révélait assez vite quel était le fond de son caractère et de sa psychologie. Au bout d'une heure à peine, on connaissait déjà les taiseux, les hypochondriaques, les détachés, les ambitieux. L'officier le plus brillant semblait être ce colonel d'état-major qui dormait couché en face de moi. Lui qui avait servi à l'étranger, parcouru le monde entier, tenu le premier rang dans toutes les opérations auxquelles il avait participé et qui attendait sa promotion au grade d'amiral, il croupissait désormais pieds nus dans une geôle de la police. Il avait suffi d'une seule nuit et d'une paire de menottes au poignet pour tuer tous les rêves de grandeur qu'il avait pu nourrir. Si tous les officiers présents avaient reçu la même gifle et subi le même choc, le colonel était celui qui avait perdu le plus gros cette nuit-là. Le capitaine de sous-marin était un joyeux luron. Malgré une intelligence formidable qui lui aurait ouvert toutes les portes, il ne nourrissait pas d'ambition particulière. Il avait notamment refusé l'état-major. « Comment est la vie dans un sous-marin ?» lui ai-je demandé. « Pire qu'ici, » m'a-t-il répondu dans un sourire. Il avait l'habitude d'être confiné dans les lieux clos et étroits. Au fil des jours, la nourriture, entre guillemets, est devenue le thème principal de nos conversations. C'est que nous avions faim. Le matin, on nous donnait un sandwich gelé, le midi, une boîte de petits pois, le soir, des feuilles de vigne en conserve. Ni thé, ni café, ni cigarette, ni rien d'autre. Pendant les 12 jours que j'ai passés dans cette cellule, nous n'avons mangé que des sandwichs, des petits pois et des feuilles de vigne farcies. C'était une cure de minceur, au sens propre. J'ai perdu 7 kilos en 12 jours. D'autres 10, parfois 15 kilos selon le temps qu'ils sont restés. Nous rêvions de nourriture. Un jour que les policiers avaient ouvert toutes les cellules pour qu'on puisse se dégourdir un peu les jambes dans le couloir, En passant dans les rangs, j'ai lancé à la cantonade. Allez, maintenant tout le monde dit qu'il aimerait manger.
Ce qu'il aimerait manger.
Ce qu'il aimerait manger. Les noms de plats se sont mis à fuser dans tous les sens comme un bouquet de feux d'artifice. Un Adana kebab, un Iskender kebab, des haricots blancs, du poisson avec de la roquette, une pizza, du pastrami, des raviolis. Nos cris eux-mêmes devenaient des objets appétissants, comme si nous pouvions manger au vol ces noms jetés en l'air dans une espèce de folle orgie culinaire. Chaque mot était suivi d'un grand « Oh !» exclamation unanime d'enthousiasme et d'approbation. Quand ces moments de liesse s'achevaient, un silence encore plus pesant envahissait le couloir. L'énergie dégagée par cette ébullition d'enfantillage, de blagues, de taquineries et d'anecdotes joyeuses avait formé une sorte de bouclier protecteur que le silence à présent lézardait de toutes parts, ouvrant des fissures béantes par lesquelles la réalité du constat aussitôt s'engouffrait. Nous étions enfermés en prison et notre avenir ne s'annonçait pas brillant. D'une voix très calme et détachée, le sous-marinier avait dit « D'abord ils nous enferment, ensuite ils nous vireront de l'armée. » L'officier d'état-major s'était écrié, récrié. « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous virent ?» Ils étaient dans l'armée depuis leur enfance et la seule idée qu'on puisse les en exclure leur donnait des frissons jusqu'à la moelle.
Ahmed est en prison avec donc un certain nombre d'officiers arrêtés après le putsch. Et comme dans toutes les prisons ou comme dans tous les camps du monde, il y a un lieu de pause, un lieu qui est un genre de sas de liberté pour les prisonniers, un lieu qui leur permet de sortir et de respirer un petit peu hors des murs de la prison, c'est l'infirmerie ou l'hôpital. Ici, Ahmed a demandé, comme un certain nombre d'autres, à avoir une consultation médicale. Et donc, pour les prisonniers turcs d'opinion, c'est la même chose. Cette visite à l'hôpital, ça va être une petite bouffée d'air. Et comme il a pu prévenir sa famille, il va en profiter pour voir de loin les membres de sa famille.
Nous sommes sortis de la cellule. Nous avons remonté le couloir encadré par deux rangées de policiers en uniforme jusqu'à un bus de la police aux vitres doublées de grillages. Dans le genre tableau de l'être humain en misérable repris de justice, rien ne valait sans doute cette pathétique protection d'hommes hirsutes et ébouriffés avec leurs chaussons informes, leurs débardeurs crasseux et leurs pantalons froissés. Au milieu de cet embouteillage que causait la confusion entre les ordres de marche qu'on nous hurlait dessus et notre maladresse à y obéir, tout ce qui faisait la personnalité extérieure de chacun disparaissait dans une sorte de bouillie humaine sans identité, où personne n'avait plus rien en propre, ni mimique, ni geste, ni voix, ni démarche. Dans cette espèce de brouillard grisâtre, l'infortune lamentable de notre sort m'apparaissait au grand jour. Nous sommes montés dans le bus. Après avoir démarré en cahotant, il a manœuvré entre les voitures garées dans le parking pour sortir dans le jardin de la Direction générale de la sécurité, où après un virage à droite, il s'est aussitôt arrêté devant l'hôpital. Une petite foule était massée sur le parvis. Sous un soleil de plomb, des gens nous attendaient. Soudain, parmi ces gens, j'ai reconnu des visages familiers, des êtres qui m'étaient chers. Ils tendaient la tête vers nous, les yeux plissés, cherchant à deviner ma présence derrière les grilles dont les ombres striaient les carreaux du bus. En les voyant, j'ai ressenti une joie immense. Il faut avoir été dans un fourgon de police grillagé, une étiquette de bouteille d'eau en guise de ceinture, pour comprendre quel bonheur on peut éprouver à la simple vue des gens qu'on aime, si loin fussent-ils de nous. À force d'aimer, on s'habitue à l'amour. Or, pour comprendre l'immensité de l'amour que cette habitude recouvre, il faut parfois en avoir été brutalement sevré. J'agitais frénétiquement ma main dans l'espoir qu'il m'aperçoive. À cet instant, l'unique objectif de toute mon existence était de faire en sorte qu'il me voie. Aussi, je m'évertuais à être vue d'eux, mais l'ombre des grillages les empêchait de me distinguer. Je ne voulais pas trop m'agiter non plus. Les policiers du bus auraient risqué d'intervenir. Ils ne m'ont pas vue. À ce moment-là, rien n'était plus important que de me faire voir de ceux que j'aimais. L'un des colonels assis à l'avant du bus m'a fait signe. « Je crois que ce sont vos proches là, devant. Venez, prenez ma place. » Quelles que puissent être par ailleurs les idées, les opinions ou la foi de ceux qui croupissent avec vous au cachot, il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Tout le monde s'entraide. Un bloc compact et solidaire, comme les étourneaux lorsqu'ils s'unissent contre les oiseaux de proie. J'ai pris la place du colonel. J'ai agité mon bras. Ils m'ont vu. D'abord leur sourire, puis leurs bras qui s'agitaient à leur tour. Ensuite, j'ai vu ma fille être saisie par une vague de secousses des genoux jusqu'au visage et dans ses yeux jaillir un torrent de larmes. Elle essayait de se contenir, mais l'émotion la faisait trembler de tout son corps. Mon fils l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre lui. Je les regardais. À cet instant, j'ai senti qu'il y avait en moi des plaies si profondes que rien ne pourrait plus les guérir. J'imaginais très bien ce qu'ils ressentaient en me voyant, moi, leur père, prisonnier au milieu d'une bande de malheureux entassés dans un fourgon de police aux vitres grillagées. Moi aussi, avec mon frère Mehmet, j'avais suivi le procès de mon père. Lui aussi avait été arrêté suite à un coup d'État. Ce jour-là, Mehmet et moi étions les seuls auditeurs dans la salle du tribunal militaire de la caserne de Selimiye, et tous les deux habillés en bleu marine, une pure coïncidence. Le lendemain, nous avions notre photo en première page d'un journal de gauche. On laissait entendre que le fait d'être habillés de la même couleur faisait de nous les porteurs d'un message. Si tout change sur cette terre, la connerie et la lâcheté, elles, ne prennent jamais une ride. Mon père était assis derrière la barre des accusés entre deux gendarmes. Il s'était levé pour sa défense. Son timbre était clair et frappant. Sa voix se diffusait dans tous les couloirs de la caserne. Peu à peu, la salle s'était remplie. À l'entrée, on voyait se masser les officiers qui avaient quitté leur bureau pour venir écouter mon père. Le président du tribunal militaire avait dit à mon père de se taire. Il avait continué de parler. Alors le président avait hurlé « Faites-le asseoir ! Faites-le s'asseoir !» Et les deux gendarmes l'avaient rassis de force sur son tabouret. Je n'ai jamais oublié le mélange de désespoir et de colère qui s'était emparé de moi à cet instant-là. La haine que j'éprouve pour les tyrans et les putschistes n'a jamais décru depuis. À présent, non seulement je comprenais ce que ressentaient mes enfants, mais en plus le fait de me trouver spectateur impuissant de leur détresse réveillait en moi cette colère que j'avais ressentie jadis en voyant mon père se faire humilier. Je leur souriais en leur faisant signe que j'allais bien. Enfin, afin d'atténuer leur tristesse, tout en me demandant à quoi je pouvais bien ressembler, craignant que mon air fourbu et dépenaillé ne les attriste encore davantage. On nous a fait descendre de l'autobus à la file, puis entrer dans le sous-sol de l'hôpital. « Vous avez reçu des coups, subi des mauvais traitements ?» m'a demandé le jeune médecin. « Non. D'autres soucis particuliers ?» La nuit, parfois, j'ai du mal à avaler. Je vous prescris un médicament. Vous êtes otorhinolaryngologiste ? Non, orthopédiste. Et qu'est-ce que vous connaissez aux médicaments pour la gorge ? Je souffre des mêmes maux que vous. Une fois la visite médicale terminée pour chacun de nous, ils nous ont fait mettre en file pour remonter dans le bus. J'ai eu le temps de crier « Je vais bien !» en saluant les miens. Le bus a redémarré. Nous avons traversé le jardin de la direction générale. Derrière la grille de la cour, mes proches suivaient le bus des yeux. Ils s'éloignaient, leur silhouette devenait minuscule. Je les regardais entre les grilles de la vitre arrière du bus. En les voyant disparaître, j'ai senti ma gorge se nouer. Ils nous ont remis dans nos cellules. Le silence assourdissait la prison. Un jour plus tard, ils nous ont de nouveau envoyés chez le médecin. Cette fois, je m'étais préparée à apercevoir mes proches. Eux aussi étaient prêts. Ils me souriaient. Je les ai salués d'un geste de la main. Le médecin avait changé. C'était une grosse dame. « Vous avez reçu des coups ?»« Non. Je dois vous examiner. »« Je n'ai pas reçu de coups. Il faut quand même que je vous examine. » Nous sommes passés de l'autre côté du rideau. Je me suis vue dans le miroir. J'avais un visage. J'existais. « Baissez votre pantalon, » a dit la femme médecin. Vous d'abord, ai-je eu envie de répondre du tac au tac, mais je me suis retenue. J'ai baissé mon pantalon. La femme examinait mes jambes tandis que je l'examinais elle. Telle était la situation. J'ai dû penser à cette scène inoubliable du roman « Tendre jeudi » de Steinbeck. Doc rend visite à sa maîtresse qui s'est installée dans une chaudière abandonnée au milieu d'un terrain vague. Au moment où il se glisse à quatre pattes dans la chaudière, son bouquet de fleurs à la main, il se dit qu'un homme qui ne perd pas sa dignité dans une circonstance pareille n'a plus rien à craindre. Et j'ai pensé, si tu réussis à garder ta dignité, même déculottée devant cette femme médecin, alors tu n'auras plus rien à craindre. Puis elle m'a autorisé à remonter mon pantalon. En sortant, je lui ai demandé « Et vous, c'est quoi votre spécialité ?» La réponse du genre impérissable « Sage-femme ».
Voilà donc les incohérences du suivi médical comme les incohérences de l'emprisonnement. Mais on va encore apprendre beaucoup de choses. Et avant, on va se réserver une petite pause de musique d'un jeune groupe turc.
Tar olan aman şeker olan yandım bekar olan gece gelme gündüz gel horozdan korkan olan Gelme gündüz gel horozdan korkan olan bacada yatan olan edası güzel olan bacada yatan olan, gömleği keten olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış, damda yatar olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan. Güzel olan bacada yatan olan gömleği keten olan gece gelme gündüz gel horozdan korkan olan aman şeker olan yandım bekar olan anasına darılmış damda yatar olan aman şeker olan yandım bekar olan anasına darılmış damda yatar olan.
Cette musique, c'est celle d'un groupe de jeunes turcs et kurdes qui ont choisi d'aller vivre à Amsterdam. Ahmet Altan, lui, dans son livre de témoignages, revient en arrière, au milieu de son livre à peu près, pour nous parler d'une des phases de ces procès ridicules qui ont déterminé son emprisonnement. À ce moment-là, son frère et lui sont accusés ensemble, puisqu'ils avaient été invités ensemble à une émission de télévision. Et on a vu qu'ils étaient accusés de propos subliminaux concernant un éventuel soutien aux putschistes.
L'aube approche, mais il fait encore noir. Mais Met et moi pensions-t-on au 7e étage du palais de justice, dans un couloir dont le sol pailleté de mica fluorescent évoque une cafétéria de province américaine. Une douzaine de policiers montent la garde autour de nous. Nous sommes tous deux amaigris. Nos visages portent les stigmates de la malnutrition et du manque de sommeil. Après nous avoir enfermés pendant 12 jours dans les cachots de la police, un soir, on nous a brusquement tirés de nos cellules et amenés au palais de justice. Là, ils nous ont jetés à l'étage inférieur, dans une pièce fermée par des barreaux, avec des bancs en bois fixés au mur. Nous nous sommes assis sur un de ces bancs. À nos côtés, un autre prévenu, qui devait être jugé en même temps que nous, et que nous rencontrions pour la première fois. La télévision accrochée au mur en face de moi retransmettait une série turque. L'image était mauvaise, le son grésillant. À côté de l'écran de télévision, un panonceau indiquait « Interdit à toute personne étrangère au service de toucher au téléviseur ». Nous avons attendu un peu plus de 3 heures. Puis les policiers sont venus me chercher. Ils m'ont emmené chez le procureur. Mon avocat m'accompagnait. Le procureur devant lequel je comparaissais était celui qui avait donné l'ordre de nous arrêter, mon frère Mehmet et moi, au motif que nous aurions adressé un message subliminal lors d'une émission de télévision à laquelle nous avions participé peu avant la tentative de coup d'État du 15 août. La pièce était étroite. Le procureur a pris ma déposition. Il ne m'a posé aucune question sur le coup d'État ou ses acteurs, ni sur le message subliminal que nous aurions diffusé. Ces questions portaient toutes sur un journal que nous avions fondé 10 ans plus tôt et dont j'avais été le rédacteur en chef pendant 5 ans avant de démissionner en 2012. Il voulait des renseignements sur ce qu'on y publiait. Il a fini par glisser. Nous avons établi qu'il existait des liens entre votre journal et les putschistes. Quelles sont vos preuves ? Ai-je répondu. Alors, il a prononcé cette phrase tout droit sortie des films d'Hollywood et qu'il brûlait manifestement de placer enfin. C'est moi qui pose les questions ici. Posez les questions que vous voulez, ça ne vous en oblige pas moins à produire les preuves du fait que vous prétendez établir. Évidemment, le procureur n'avait aucune preuve à apporter ce jour-là, pas plus que les autres. Il était très nerveux. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans son petit bureau. Il passait son temps à s'asseoir et à se relever de son fauteuil. Vers le milieu de l'audition, du sang s'est mis à couler de son oreille. Et en même temps qu'il essayait de faire cesser le saignement en s'enfonçant des mouchoirs en papier dans l'oreille, il continuait à m'interroger sur des articles vieux de 6 ou 7 ans. Les mouchoirs ensanglantés s'accumulaient sur son bureau. Notre entretien s'est achevé au milieu d'un délire de mouchoirs tachés de rouge, sans que le procureur m'ait posé la moindre question sur le coup d'État. Les policiers m'ont ramené dans ma cellule au premier étage. C'était au tour de Mehmet d'être interrogé. Il faisait presque nuit. Je me suis assis sur le banc et j'ai regardé la télévision. C'était une scène de fusillade. 2 bandes rivales se tiraient dessus. Puis un jeune homme et une jeune fille s'enfuyaient main dans la main. Les questions du procureur ne m'avaient pas aidé à comprendre de quoi j'étais accusée. Rester assis me fatiguait. Je faisais des allers-retours d'un mur à l'autre. À 2 heures du matin, ils ont ramené Mehmet. L'attente a repris. Soudain, toute une troupe de policiers a débarqué. On nous a fait remonter là-haut. Le procureur nous envoyait devant le tribunal avec une demande d'incarcération. C'était un tribunal à un seul juge, dans une petite salle surchauffée. Pour lutter contre cette chaleur étouffante, le juge passait son temps à rejeter en arrière sa bavette, s'en servant comme d'un éventail. Si nous avions officiellement été arrêtés en raison du fameux message subliminal qu'on nous soupçonnait d'avoir diffusé, la nature de la charge avait brusquement changé. Participation à une tentative de coup d'État. Tel était désormais le motif de notre comparution. Dès le début de l'audition, nous avons demandé au juge. On nous a arrêtés à cause d'un message subliminal et maintenant ce chef d'accusation a disparu. Qu'en est-il et pourquoi ? La réponse que nous a donnée le juge, avec un large sourire ironique, mérite d'ores et déjà de figurer dans tous les manuels de jurisprudence et d'histoire du droit. Disons que nos procureurs aiment employer les termes qu'ils ne comprennent pas. En résumé, si nous croupissions depuis 12 jours dans les cachots de la police, c'était à cause d'un procureur qui avait pris plaisir à employer un mot qu'il ne connaissait pas. Le juge ne disait pas autre chose. Il a ensuite commencé à nous poser des questions. Ne pouviez-vous pas vous douter que ces gens-là allaient tenter un coup d'État ? Avant d'ajouter avec un sourire satisfait, moi je m'en doutais. Nos avocats sont intervenus. Ne pas se douter d'une tentative de coup d'État n'est ni un crime ni même un délit. Aucune accusation de cet ordre ne saurait peser sur nos clients. Le juge s'est redressé. Mais je n'accuse personne, mon cher. On discute, c'est tout. Puis, une autre question étrange. Vous avez déclaré que le gouvernement commettait des irrégularités et enfreignait les lois. Nos avocats se sont de nouveau interposés. Les leaders d'opinion aussi ont accusé le gouvernement d'enfreindre la loi. De telles déclarations n'ont rien à voir avec une tentative de putsch. Cette fois, le juge n'a rien répondu. Il s'est tourné vers moi. Si seulement vous aviez continué à écrire des romans au lieu de vous mêler de politique. Peu avant l'aube, nous étions devant le tribunal chargé d'une demande d'incarcération pour tentative de coup d'État, face à un homme qui prétendait nous dire notre fait. Je me suis énervée pour de bon. D'abord, vous nous placez en garde à vue à cause d'un message subliminal que nous aurions prétendument diffusé, puis, sans raison, vous changez de motif, nous accusant cette fois d'être des putschistes. Or, quand bien même vous mettriez sur le dossier tous les procureurs et tous les juges de ce tribunal, vous ne trouveriez pas la moindre preuve de notre participation à ce putsch. Puis Mehmet a ajouté « J'ai passé toute ma vie à combattre les putschistes et les coups d'État. Et maintenant, sous prétexte que nous critiquons le pouvoir, vous nous accusez d'avoir participé au putsch. Sans aucune preuve d'ailleurs, puisqu'il ne peut pas y en avoir. » Le juge a levé la séance pour délibérer. Le matin approche, mais il fait toujours noir. Nous attendons le verdict du juge. Est-ce qu'on rentrera chez nous ou bien en prison ? Le seul juge avec ses questions farfelues va décider de notre sort. Un seul juge avec ses questions farfelues va décider de notre sort. Nous sommes crevés, abattus. Une troupe de flics nous entoure. Je regarde par la fenêtre. La ville est silencieuse. Elle dort. Les avenues sont vides. Les réverbères semblent éteints. Il y a du mouvement. Le juge a rendu son verdict. On nous ramène dans la salle d'audience. Le juge commence à lire le verdict. Le dénommé Ahmed Ustev Altan est remis en liberté provisoire. J'écoute la fin du verdict en me préparant à exploser de joie. Mehmet Hassan Altan est maintenu en détention. Aussitôt, une douleur physique d'une violence inouïe, comme si on m'avait enfoncé une barre de fer dans le foie pour la faire ressortir par le dos. Et en même temps, une colère énorme, un immense désespoir. Mehmet se retourne et me sourit. Il est heureux que je reparte libre. Les policiers nous font redescendre. Une voiture de police attend Mehmet pour le conduire en prison. Nous nous embrassons. Mehmet me console. Ne sois pas triste. C'est bien qu'il y en ait un de nous deux qui soit dehors. Il l'embarque. Je regarde la voiture s'éloigner. Je m'aperçois que je n'ai rien trouvé à dire au moment de me séparer de lui. Deux policiers viennent m'escorter. Ils me libéreront dès qu'on aura quitté le bâtiment du palais de justice. Ils ouvrent une porte métallique. Nous pénétrons dans un couloir. Devant moi, un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Des milliers de dossiers roses gisent au sol, entassés les uns sur les autres comme des tortues mortes. Des dossiers remplis de noms, de trahisons, de crimes, de faillites, de divorces, de rixes, des vies englouties dans les profondeurs d'un bâtiment dédié à la justice, le cimetière secret des dossiers roses. Nous nous frayons un chemin à coups de pied dans les dossiers. Les couloirs n'en finissent jamais, les dossiers non plus. Quand mon pied écrase un dossier, une sensation désagréable m'envahit, comme si c'était un homme que je piétinais. Au bout du couloir des escaliers, nous montons. Ils ouvrent le portail et me laissent dehors. Le jour se lève. Je frissonne dans la fraîcheur du petit matin. J'inspire une grande bouffée d'air. Je suis libre, je suis en colère et je suis triste. Je ne sais pas encore que ma tristesse sera de courte durée, que le soir même, un ordre d'arrestation sera émis contre moi. Ils m'enverront dans la prison où ils ont envoyé mon frère.
Voilà, donc c'est l'absurdité des jugements rendus par des juges incapables ou par des juges fonctionnaires qui, comme dans tous les régimes totalitaires, font leur travail et envoient en prison sans preuve. Parce qu'il ne faut pas laisser en liberté les esprits trop libres. C'est ce qui rend totalement universel le livre de Ahmet Altan, ce combat pour la liberté mentale, la liberté de l'esprit, alors que toutes les autres libertés disparaissent. Et c'est ce combat qu'on ressent dans l'ensemble de son livre, c'est cette volonté de rester debout, de continuer à penser, librement. Et c'est cette volonté de résister qu'on va retrouver dans un texte tout à fait particulier qui décrit à nouveau la vie en prison, et ça va être la lutte contre le temps.
En prison, on compte tout. Les pas des rondes minuscules qu'on effectue dans la cour, le nombre d'œufs durs dans la boîte en carton glissée chaque mardi à travers le trou de la porte en fer, les cigarettes fumées dans la journée, les touffes d'herbe qui s'entêtent à pousser dans l'interstice des gouttières quand il a plu dans la cour, les ululements brefs et déchirants du hibou de minuit. Un prisonnier compte tout, sauf le temps. Le temps, il le découvre. Par un jour tiède de septembre où le ciel brillant, serein, dans une netteté de cristal bleu, semblait suivre d'un œil indifférent ce qui se tramait sous lui, les policiers m'ont conduit dans une prison de haute sécurité, à 100 km hors de la ville. Ils m'ont jeté dans un labyrinthe fait de murs de grosses pierres, sales et jaunies, et de barreaux de fer marron foncé. À l'entrée, ils m'ont d'abord dépouillé de ma montre, mes livres, mes cigarettes, ma brosse à dents, enfin de tous, à l'exception des vêtements que je portais. Ils m'ont mis dans une sorte de cabine qui ressemblait à ces petits photomatons de supermarché où les gens se font tirer le portrait derrière un bout de rideau. Je me suis déshabillée. Ils ont examiné chacun de mes habits, se servant de leurs ongles comme d'un peigne fin. Ils ont fouillé les manches, le col de ma chemise, les poches de mon pantalon. Ils ont passé mes chaussures et ma veste au rayon X. Puis, comme dans les films, j'ai dû tendre mes bras parallèlement devant moi, les paumes tournées vers le haut pour recevoir mon nécessaire. Une couverture, un drap bleu et un coussin. Deux gardiens m'ont escorté ensuite vers ma cellule. Nous avons traversé plusieurs couloirs bordés de grilles et encore de grilles, avant de prendre à droite vers un escalier qui montait, grilles encore, et de s'arrêter devant une porte en fer qui portait l'inscription « Poste de soins, femme ». Était-ce par pur hasard qu'il mettait dans le poste de soins, femme, un écrivain dont la passion pour le sujet des femmes était fameuse et presque de notoriété publique ? Ou bien fallait-il y voir de la part du directeur de la prison une sorte de sarcasme intentionnel à l'égard du dit écrivain? J'avoue que la réponse m'échappait. Ils ont ouvert la porte et m'ont poussé à l'intérieur. Derrière moi, le verrou glissait et se refermait dans un choc sourd, comme un coup de griffe. L'unique fenêtre de la pièce, elle aussi munie de barreaux, donnée sur une minuscule cour de pierre. Je me suis allongée. Silence. Un silence profond, extrême. Pas un bruit, pas un mouvement. La vie soudainement s'était figée. Elle ne bougeait plus. Froide, inanimée. La vie était morte. Morte tout d'un coup. J'étais vivant et la vie était morte. Alors que je croyais mourir et que la vie continuerait, elle était morte et je lui survivais. Il me fallait lui insuffler de l'âme. Il me fallait recréer la vie à partir de ma propre respiration, tel Dieu qui créa l'homme en soufflant sur la glèbe. Quel était donc ce souffle qui ravive la vie? Comment saurais-je l'animer? Ce miracle ne portait qu'un seul nom, rêver. Comme Dieu, regardant un tas de glèbes, avait rêvé ce chaos qu'on appelle l'homme, moi, spectateur d'une vie morte, semblable à une poignée de boue, je rêvais une autre vie. Je lui insufflerai mon propre souffle, pareil à un bédouin qui sait où trouver au milieu du désert infini l'oasis qui étanchera sa soif. J'avançais d'un pas décidé vers la source bien connue des rêves qui grouillaient en moi. Là, ma peur a rencontré la réalité. La source était tarie, l'oasis disparue. Le rêve se refusait à moi, impossible d'en concevoir même un seul. Mon esprit était pétrifié, aucune image ne s'y dessinait. Les secrètes visions du monde, des rêves demeuraient collées, immobiles et figées, au mur de ma conscience, comme des fresques qui s'estompent. Alors j'ai eu peur, prisonnier dans le cadavre d'une vie morte, incapable d'un geste, impuissant à me libérer. Le souffle me manquait. J'étais au fond d'un vide où la mort m'ôtait l'air. Tel un Dante descendu en enfer, sans son Virgile, je glissais toujours plus bas dans les étages de la vie morte, jusqu'à atteindre celui du plus terrible châtiment. L'étage où se trouvait le temps, reptile géant que je voyais ramper vers moi, alourdi, ralenti par le poids de la vie morte, dont était faite sa masse indéchirable. Ici, nulle heure pour accélérer le temps en le fractionnant, heure, minute, seconde. Pas le moindre mouvement, ni rêve, ni pensée pour morceler le temps. Le temps n'était plus qu'un bloc, un reptile géant. Désormais, impossible à isoler ni dissocier, les instants, soudés les uns aux autres, formaient une masse toujours plus énorme, montagne gélatineuse et transparente, qui m'empoissait de tous côtés, écrasant mon esprit, mon âme, mon corps, pénétrant mes narines, ma bouche, une lente asphyxie. Tempus absoluto, le temps absolu. Temps qui, selon Newton, s'écoule à la même vitesse en tout point de l'univers, sans que l'homme n'en perçoive rien. Il avait quitté l'univers pour venir s'abattre sur moi, qui ne pouvait lui échapper, dans ce poste de secours crasseux, fermé par un verrou de fer. Maintenant, je comprenais pourquoi les hommes avaient inventé ces horloges dont ils ornaient leurs rues, leurs places et leurs clochers. Non, pas pour savoir l'heure qu'il est, mais pour scander le temps afin de s'en affranchir. Et coincé dans ce trou sans rêve et sans remous, sentant mes poumons exploser sous le poids de ce temps bloc qui m'écrasait sous lui, j'ai compris d'instinct plutôt que de raison qu'il me fallait fabriquer un temps nouveau, inventer une horloge inédite. Je me bagarrais avec le temps dans la poussière d'une infirmerie désaffectée, fermée par un verrou de fer. J'avais besoin d'armes. Quand le soleil était au zénith, ses rayons divisaient en deux parties égales la petite cour de pierre que je voyais depuis ma fenêtre. Une moitié dans l'ombre, l'autre dans la lumière. Puis, celle-ci glissait lentement à l'assaut du mur d'en face. Vers 18h, 18h30, selon mes estimations, elle atteignait le sommet du mur et disparaissait. Il fallait donc 6 heures à la lumière pour gagner le faîte du mur d'en face. Je divisais à vue d'œil en 6 parts égales la distance comprise entre le milieu de la cour et le bord supérieur du mur. Ainsi pouvais-je désormais savoir l'heure qu'il était. J'avais inventé mon cadran solaire. Victoire décisive sur la vie morte et son vide massif. Peu à peu, pas à pas, j'avais fait obstacle à ce temps reptilien qui me broyait les poumons. J'ai marché, j'ai compté mes pas. À la fin de ces 3 jours, alors que je m'éveillais d'un nouvel évanouissement, j'ai senti qu'un miracle s'était produit. Mes rêves étaient revenus. Penchée sur moi, la Scheherazade des contes me souriait en secouant sa riche chevelure. Les fresques s'animaient, les eaux de l'oasis jaillissaient. J'ai trouvé le souffle divin qui anime la glèbe et à la vie donne vie. J'étais de nouveau maître de la vie et du temps. J'avais fait naître Dieu. 5 jours plus tard, il me sortait de là. Je suis sortie le sourire aux lèvres, le sourire de Moïse revenant du mont Sinaï. Depuis, je vis dans une cellule parmi des milliers d'autres cellules. Il y a une horloge en plastique ronde qui ressemble à une fleur verte. Le tempus absoluto, désormais, n'a plus de prise sur moi. Il s'en est retourné à sa place ordinaire dans l'univers. Personne ne le voit plus. Je ne dois plus compter le temps. C'est en prison que j'ai découvert les deux temps, l'absolu d'un seul bloc et celui fragmenté de l'horloge. À présent, j'ai ma montre, j'ai mes rêves. Et lorsqu'entre deux voyages infinis au pays des rêves, je reviens en prison, je compte les œufs, les pousses d'herbe, les cris du hibou. Toutes les nuits, il ulule trois fois.
Dans ses textes écrits en prison, Ahmet Altan, à travers un témoignage très factuel, comme nous venons de nous en rendre compte ici dans son combat avec le temps, nous montre comment ne pas désespérer, comment résister. Sa leçon porte bien au-delà des prisons. Rester libre, vivre libre, c'est en chacun et en chacune d'entre nous qu'on en trouve l'énergie. Et lui, c'est à l'intérieur de lui-même, de ses rêves, de son imagination, qu'il recrée le monde et qu'il reste libre. Alors, je vous livre la conclusion d'Odile. Elle vient de nous dire, c'est un petit livre, mais c'est un grand livre. Donc, je vous invite à lire ce grand livre, en effet, qui n'a pas beaucoup de pages, puisque c'est 150 pages environ, et à construire votre liberté avec tout l'espoir que vous donnera Ahmet Altan. La prochaine émission, justement, sera animée par Odile. Elle nous présentera Le Liseur de Bernard Schlink. Donc, bonne semaine et à bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.